Nous savons que nous n'invoquons jamais le nom du Seigneur en vain. Et c'est merveilleux de lire dans l'Écriture que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, où qu'il soit, dans quelque situation qu'il se trouve. Nous avons un Dieu qui entend les prières de toutes ses créatures. Et quand ces prières sont faites au nom de Jésus, nous savons qu'elles sont reçues. Et nous avons invoqué son nom ce matin. Nous avons besoin de sa grâce, cette grâce qui est à la base de notre salut. Nous avons besoin de sa miséricorde, cette miséricorde qui nous suit tous les jours de notre vie, car par nature nous sommes des êtres misérables. Mais quand nous avons reconnu notre misère devant Dieu, toute la miséricorde de Dieu sort de son cœur comme un fleuve pour nous envahir. Alors ce matin, nous demandons que cette miséricorde du Seigneur puisse trouver des cœurs qui sentent leur misère et qui, même avant de venir dans sa présence, se sont confessés au Seigneur. C'est pourquoi nous n'allons pas faire une confession des péchés machinale, mais nous pensons que vous ne venez pas au culte pour y confesser vos péchés, mais que vous les avez confessés déjà avant et que vous venez avec les pieds vraiment lavés pour rendre culte au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, les pieds lavés? Eh bien, quand on a cru au Seigneur Jésus, on a tout le corps lavé. C'est lui-même qui nous dit, à cause de la parole que nous avons reçue, nous sommes rachetés, nous sommes purifiés. Mais comment on marche encore dans ce monde et que dans les jours de la semaine, nous avons peut-être pu contracter quelques souillures, c'est dans à nos pieds que le Seigneur veut que nous regardions pour que nous puissions nous séparer de ce qui n'a pas été à sa gloire dans la semaine et que nous puissions vraiment nous laisser purifier par lui, parce que venir à un culte en disant oh bien moi ça n'a pas marché cette semaine mais j'irai quand même mais je prendrai pas la scène parce que je me sens pas digne. Mais alors qu'est-ce que vous faites de votre Seigneur qui a dit faites ceci en mémoire de moi? Il est digne que vous vous souveniez de lui, et c'est encore la preuve que vous ne le connaissez pas. Car même si vous avez eu quelques souillures dans la semaine et qui n'a pas ses manquements, qui est l'homme qui ne pêche pas sur la terre, eh bien, si vous n'avez pas saisi que le Christ peut vous purifier, il n'a pas communion avec le péché, mais il peut vous purifier de tout péché. Et alors, pourquoi n'aurions-nous pas confessé nos péchés au lieu de faire une confession mécanique et générale de nos péchés pour recevoir après une absolution générale de nos péchés? C'est une absolution individuelle que vous devez avoir reçue de votre Seigneur, votre conscience étant apaisée parce que vous vous êtes jugé vous-même et que vous avez appelé votre manquement par son nom. Alors, vous êtes dans la joie quand vous venez à la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, eh bien, qu'est-ce que c'est? Lisez l'Épître aux Hébreux et vous saurez que sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous, des pierres vivantes, et non pas un édifice dans lequel on se rassemble, mais des pierres qui ont été arrachées à la carrière du monde et qui sont taillées par la puissance du Saint-Esprit et qui emploient diverses épreuves pour nous sanctifier. Et c'est ainsi, mes bien-aimés, que nous pouvons former une maison spirituelle et devenir une sainte sacrificature qui peut louer, bénir, rende grâce au Seigneur, un culte qui lui est agréable, un culte en esprit et en vérité, car notre Dieu est un Dieu de vérité. Et si vous connaissez l'œuvre du Seigneur, eh bien vous savez qu'il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Son sang, et il dit, nous purifie de tout péché. Et dire simplement, je ne suis pas digne, alors je ne prendrai pas la scène, eh bien, c'est manifester que nous ne connaissons pas le Seigneur et que nous sommes en pleine désobéissance, en plein manque de foi. Car nous devons croire ce qu'il nous dit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? On peut se le demander quand on voit ce que sont devenues nos vies de chrétiens. Eh bien, c'est dans l'humiliation que nous nous tenons devant le Seigneur, parce que nous savons qu'il ne résiste pas à l'humiliation. C'est cela qui est merveilleux. À qui résiste-t-il? À l'orgueilleux. Mais à celui qui reconnaît sa misère, il fait miséricorde. Et alors on ne reste pas dans sa misère, mais on reste dans la joie de notre salut, comme David, quand il a eu confessé sa faute, il a retrouvé non pas son salut, il ne l'avait pas perdu même par une grave faute, mais il a retrouvé la joie de son salut, car le Seigneur qui habite le lieu haut élevé et saint aime faire sa demeure dans le cœur de celui qui est contrit, qui a l'esprit brisé et qui craint sa parole, comme le dit le chapitre 57 d'Ésaïe. Et nous avons demandé aussi la paix. La grâce, nous l'avons reçue. La miséricorde, nous la recevons. Et la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, pour que nous puissions vraiment nous souvenir de lui. Bien qu'il en soit ainsi. Et maintenant, nous pourrions, avant que je vous apporte le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin pour vous, avant que nous nous adonnions à la louange, nous pourrions chanter un cantique. Le numéro 20. Nous lèverons pour le chanter. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi, à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infini. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus, gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, voilà pour demain, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi ta tendresse. Il n'est pas dit que Dieu nous donne sa tendresse pour un mois à l'avance, mais chaque jour, il y a ce renouvellement. Quel repos céleste! Quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Nous avons notre place à cette table, parce que ce n'est pas la table d'un homme, c'est la table du Seigneur, où le Seigneur accueille tous ceux qu'il a rachetés. Nous ne sommes pas une secte et nous ne mettons pas de préalable pour s'approcher de la table du Seigneur. Ce qui compte, c'est que vous entendiez l'appel du Seigneur qui vous demande de faire cela en mémoire de lui, non pas simplement un geste, on mange un morceau de pain, on boit une gorgée de vin, il n'est pas question de cela, il est question d'entrer réellement dans la communion du corps du Christ, car il a dit, ceci est mon corps, et d'être en communion avec le sang de Christ, car il a dit que ceci est mon sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le pain se change en chair, que le vin se change en sang, mais ça veut dire que cette chair du Seigneur a réellement été brisée, meurtrie pour nous, et que nous qui sommes maintenant plusieurs, eh bien, par sa mort, par le brisement qu'il a accepté, nous sommes devenus un seul corps, et que nous faisons partie du corps de Christ. Alors, en prenant la scène, nous discernons le corps, c'est-à-dire nous reconnaissons comme membres du corps tous ceux qui lui appartiennent. Nous sommes en communion, non pas avec un groupe particulier, mais avec tous ceux que le Seigneur reconnaît pour les cieux, où qu'ils se trouvent, dans quelque dénomination qu'ils se trouvent, quel que soit leur degré de lumière, parce que ce n'est pas selon nos lumières que nous serons sauvés, mais selon l'amour du Seigneur qui a tout accompli, même pour ceux qui n'ont pas toujours tout compris et qui ne comprennent pas encore, mais qui ont la crainte du Seigneur et qui l'adorent. Eh bien, que le Seigneur nous parle ce matin et que nous ne chantions pas comme une ritournelle ce cantique, et que nous puissions, lorsque le moment sera venu de boire à la coupe, reconnaître que nous n'avons plus un Christ extérieur à nous, mais vraiment un Christ intérieur, aussi vrai que le vin nous pénètre, le fruit de la vigne. Eh bien, nous avons communion au Seigneur Jésus, à sa vie, le sang, c'est la vie, dit l'Écriture. Il a donné sa vie. Alors, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Et il y a cette admirable réponse du cœur de l'homme avec le cœur de son Seigneur. Et si un cœur à cœur entre nos frères, je ne puis pas être en communion avec le Seigneur et ne pas être en communion avec tous les rachetés du Seigneur. De sorte que l'unité du corps de Christ est vraiment proclamée à la table du Seigneur. Ne soyons pas de ceux qui prétendent à l'unité du corps de Christ et qui, dans la pratique, la nient. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses et que ce culte puisse se passer dans la paix et dans la joie en attendant. Que nous ayons notre place dans la maison du Père, où il est allé nous préparer ses places après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir sa face.
dans ton grand amour, fais que
notre Dieu, nous allons ouvrir ta parole. Et c'est pourquoi nous éprouvons le besoin de te demander le secours de ton esprit pour que nous puissions discerner les merveilles de ta loi. Que cette parole devienne pour nous une lettre vivante, qu'elle ne reste pas lettre morte, mais qu'elle ait un accès dans tous nos cœurs, que nous nous sentions concernés comme si nous étions tout seuls en ta présence et que tu nous parles à la conscience et au cœur, mais aussi à notre intelligence, car nous croyons que tu peux éclairer notre intelligence et nous donner de l'intelligence en toutes choses. Tu as pu dire, Seigneur Jésus, lorsque tu étais sur la terre, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélés aux petits enfants. Tu l'as trouvé bon ainsi, et bien qu'il en soit ainsi parmi nous, que tu trouves des cœurs d'enfants qui reçoivent ta parole et qui puissent ensuite devenir de ces adorateurs qui louent le Seigneur, toi qui as établi ta louange par la voix des petits enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Oh, que ces petits-enfants et que ceux qui sont à la mamelle et qui si souvent nous dépassent ne restent pas seuls à ouvrir leur bouche et à te louer dans ce langage incompréhensible qui est le leur, mais que déjà sur la terre, nous trouvions, nous qui sommes ici, quelques mots pour te dire notre amour, notre reconnaissance, le débordement de notre cœur qui est l'adoration, la prosternation. Amen. Le psaume que je vous lirai ce matin pour l'avoir reçu du Seigneur, c'est le numéro 116e. Psaume 116, dont l'auteur n'est pas connu, mais dont nous connaissons celui qui a inspiré cet auteur. J'aime le Seigneur, car il entend ma voix, mes supplications. Il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et chagrin. Mais j'invoquais le nom du Seigneur. Je t'en prie, éternel Seigneur, sauve mon âme. Le Seigneur fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. Le Seigneur garde les simples. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Mon âme retourne en ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de chute. Je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants. J'ai cru. Quand j'ai parlé, ou j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'étais très malheureux. Je disais dans ma précipitation, tout homme est menteur. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Et il a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses fidèles, ou la mort de ceux qu'il aime. Je te supplie, Seigneur, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel. Au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Mes bien-aimés, je veux croire que cette parole ne vous laisse pas intacte. Et que Jésus n'a pas à vous dire, lui qui voit toutes choses et qui sent toutes choses, ma parole n'a pas d'accès auprès de vous. Je veux croire que tous, vous êtes dans la présence d'un seul Seigneur et que vous vous sentez concernés. Vous qui croyez en un salut personnel, vous qui avez confessé que Jésus-Christ n'était pas seulement le sauveur du monde, mais qui avait pu dire un jour, il est mon sauveur, eh bien c'est votre sauveur qui vous parle maintenant. Et je veux croire que son œuvre s'accomplit en vous. J'aime l'Éternel. Qu'en est-il de vous en ce dimanche matin 17 juillet 1988, pouvez-vous dire, comme étant l'expression véritable du fond de votre cœur, car Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur, psaume 51, eh bien, pouvez-vous dire réellement, j'aime l'Éternel. Et pourquoi pouvons-nous dire que nous aimons l'Éternel? N'est-ce pas parce que lui nous a aimé le premier? Si nous, nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimé le premier. C'est un amour qui remonte à sa source. Et il m'a aimé. Et comme l'eau remonte toujours vers la source, eh bien, nous lui rendons l'amour qu'il a versé dans nos cœurs. C'est pas notre amour à nous, mais c'est l'amour de Dieu versé dans nos cœurs qui, après nous avoir vivifiés, remonte à la hauteur de celui qu'il a vraiment donné. Et voyez-vous, c'est expérimentalement que nous pouvons parler de ces choses. Je me souviens d'une mission que j'avais dû faire en Suisse il y a bien des années, alors que j'habitais encore Nice. On m'avait demandé pour un anniversaire à l'Institut Emmaüs, qui était à Vennes-sur-Lausanne à ce moment-là. Et c'était les professeurs et tous les anciens élèves qui avaient été réunis et qui avaient passé par Emmaüs autrefois, qui étaient là. Et pendant toute une semaine, je m'étais donné à fond pour eux tous. Et puis tout à coup, le dernier jour, quand tout a été fini, je me suis étendu un moment sur le lit qui m'était donné et je me suis senti partir. J'ai pensé, jamais je ne reverrai Nice. Mais j'ai été avec toi, Seigneur, et je n'avais plus aucune force. Et tout à coup, j'ai entendu dans mon cœur, et c'est ainsi que le Seigneur parle et vous touche. J'ai pas ouvert ma Bible pour trouver un encouragement, mais j'ai entendu dans mon cœur une parole qui est bien semblable à celle qui est évoquée ici, mais qui se trouve au psaume 18e que je vous invite à méditer après ce culte. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force. J'ai entendu cette parole. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Et quand j'ai entendu cette parole, j'ai compris. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Et en un instant, comme la femme qui avait cette perte de sang et qui disait, si seulement je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. Instantanément, j'ai reçu une force nouvelle et quand ceux qui m'avaient reçu, nos amis de Benoît de Vennes, sont venus pensant que j'avais vraiment besoin de soins. J'étais debout, prêt à continuer la course. La parole de Dieu, nous en témoignant, elle a une puissance qui peut nous pénétrer jusque dans nos os. C'est pourquoi nous aimions à apprendre le psaume 103 à nos enfants dans le camp précédent. Ce psaume qui dit, mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi, et nous avons vu tout ce qui est en nous, dans notre corps même, qui n'est pas visible, tous ces organes que le Seigneur a formés, et qui sont revivifiés par sa force toute puissante. Voulez-vous connaître un renouvellement de force? Retrouvez votre premier amour. Retrouvez votre premier amour. Il nous a aimés le premier et retrouver le premier amour, c'est se souvenir que lui nous a aimés le premier. J'aime l'Éternel. Pour quelle raison? Mais car il entend ma voix dans le psaume 115. Vous aviez la description des idoles que les pagans révèrent. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont des mains et ne servent pas. Elles ont des pieds qui ne marchent pas. Et ceux qui les ont faites sont toutes comme elles. Vous ne pouvez pas recevoir du secours des idoles, des statues, mais vous pouvez recevoir la force d'un Dieu vivant. Et vous savez qu'il vous entend. Il a entendu mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi. Alors, quand on a fait cette expérience, non pas une fois, deux fois, mais tout au cours d'une longue vie ou d'une vie déjà longue, eh bien, mes amis, comment douter de notre Seigneur? Mais on ne s'habitue pas à ces interventions merveilleuses. On est toujours dans l'étonnement. Et voyez-vous, quelqu'un qui ne s'étonne plus, eh bien, c'est un vieillard, vraiment. Mais quand on sait s'étonner encore, il y a comme un regain de jeunesse, comme les enfants qui voient quelque chose pour la première fois. C'est merveilleux. Eh bien, restons dans cet étonnement. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant pour un autre Seigneur? Et puis, destination, que nos jours servent à l'accomplissement du conseil de Dieu. Il n'est pas question que vous essayiez de faire quelque chose pour Dieu pendant vos jours. Il est question que Dieu qui vous a créé voudrait pouvoir faire avec vous sa volonté durant les jours qui vous restent. Vous allez peut-être passer assez d'années à les gaspiller pour le monde et les jouissances du monde ou les honneurs du monde. Il est question maintenant que vous puissiez racheter le temps et que vous puissiez être à la disposition totale du Seigneur afin qu'il puisse. Et c'est cela qui est tellement merveilleux, parce qu'avec Jésus, on peut toujours recommencer, qu'il puisse vous redonner les années perdues. Parce que tout à coup, on arrive à la fin de sa vie, puis on se dit, que d'années j'ai perdu. Je m'en vais être dans l'éternité avec mon Sauveur, et qu'est-ce qui a été accompli pour lui, ou plutôt, qu'est-ce qu'il a pu accomplir par ma vie. C'est pas à nous de juger, c'est lui qui juge. Quand on est au Seigneur, comme Moïse, et qu'on lui a parlé, qu'il nous parle, eh bien, on est complètement dépréoccupé de soi-même. Dépréoccupé de soi-même. Quand on a parlé avec lui, on ne s'occupe plus de nous, de soi. Il ne savait pas, Moïse, je l'ai répété ces derniers jours, que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Il n'avait pas besoin de se composer un visage de piété. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. On n'en est pas conscient, mais le Seigneur met son empreinte sur ceux qui communiquent avec lui. Et alors l'expérience, vous voyez, n'est pas facile. Les liens de la mort m'avaient enserré. Les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. Vous avez plusieurs, je suis sûr, passé par ces moments-là. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Est-ce que vous avez connu cela, ce fond de la détresse et du chagrin un jour dans votre vie? Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Alors que des hommes qu'on a appelés les maîtres à penser d'une certaine génération, quand ils ont tenu le fond de la détresse et du chagrin, comme Monterland, ils se sont tirés une balle dans la bouche. Voilà, le fond de la détresse et du chagrin, une balle dans la bouche, pour ne pas devenir aveugle. Non, chers amis, car même si nous devions perdre la vue, nous avons la vue du Seigneur. De toute façon, les choses visibles s'estompent de plus en plus, et nos yeux doivent s'attacher sur les choses invisibles qui sont éternelles. Et si vous voulez marcher en témoin du Seigneur, souvenez-vous de Moïse. Il marchait comme voyant l'invisible, au sein même d'un désert et au milieu d'un peuple rebelle, avec un frère et une sœur, et qui contestait sa position et qui le jugeait. Il était seul, incompris, critiqué, et pourtant, il marchait comme voyant l'invisible. Il ne regrettait pas ce qu'il aurait pu être en Égypte s'il était resté le fils de la fille du Pharaon. Verset 5, je vous relis ces versets simplement, mais vous allez les méditer. Du reste, c'est la meilleure façon de méditer la parole. On prend toujours des thèmes, et puis on va ici, on va là. Lisez la parole, nourrissez-vous de la parole. Vous l'avez lu une fois, reprenez le verset et laissez-vous instruire par cette parole. Et souvenez-vous d'une chose merveilleuse, pourquoi je suis bouleversé encore ce matin, c'est que je pensais, c'est le dernier cantique que le Seigneur a chanté. La veille de sa mort, ce psaume 116, fait partie du grand Hallel, comme on l'appelle chez les Juifs, et qui est chanté à la fête pascale. De sorte que depuis le psaume 113 jusqu'au 118, c'est ce cantique que Jésus a chanté la veille de sa mort. C'est ce cantique qu'il a chanté quand il a institué l'Eucharistie, la suprême action de grâce. Évidemment, on n'aime pas le mot Eucharistie parce que on a corrompu l'Eucharistie. Mais le vrai mort au point de vue de la Sainte Cène, c'est vraiment l'Eucharistie. Et j'ai pas peur d'employer certains mots, comprenez-vous, en me souvenant de ce qu'il veut dire. La suprême action de grâce. Participer au repas du Seigneur, c'est pour lui vraiment une action de grâce. Vous montrez que vous l'aimez, vous montrez que vous êtes sensible à son amour, vous montrez que vous ne voulez pas qu'il y ait dispute entre vous, entre frères. Et nous avons parlé dans tout ce ton familial de la clé qui nous donne cette communion, qui nous fait entrer vraiment dans la maison, c'est le pardon. Si nous n'avons pas pardonné à notre frère, eh bien c'est cela qui nous bloque. Vous pouvez faire un tas de prières, elles ne seront pas exaucées. Le Seigneur est catégorique, si vous ne pardonnez pas, eh bien, vous n'êtes pas pardonné. Quand on n'est pas pardonné, on est malheureux. Alors, pardonnez, apportez à d'autres la délivrance dont ils ont besoin. Vous avez reçu ce pouvoir de pardonner les péchés. Ce n'est pas simplement les prêtres ou les pasteurs, mais c'est vous qui avez en vous-même, comme chrétien, le pouvoir de délier les âmes en leur pardonnant. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Faites le premier pas. N'attendez pas que l'autre vienne vous demander pardon. Il n'est pas question que ce soit vous qui ayez raison. Il est question que ce soit le Seigneur qui ait raison sur nous. Et c'est ça qui le glorifie. Il est l'exemple des exemples. Et ça a été tout le thème de notre méditation durant ce camp familial. Tout apprendre de Jésus pour lui ressembler en toutes choses. Verset 5, l'Éternel, c'est grâce et il est juste. Oh, quand on le connaît, on sait qu'il fait grâce et que de sa plénitude nous recevons grâce sur grâce. On sait qu'il est juste. Quand vous pourriez penser un seul instant que Dieu est injuste d'une manière ou d'une autre, soit envers certaines créatures qui nous semblent vraiment innocentes et qui le sont, certes, eh bien, vous vous trompez, vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Dieu est juste. Notre Dieu est compatissant. Si vous qui pensez avoir le cœur si tendre pour faire des reproches à Dieu sur sa dureté apparente à l'égard de certains, mes amis, vous jugez votre Dieu, vous n'avez pas eu le brisement de Job, car quand il a été brisé, il a eu un autre langage que de penser que Dieu pouvait être injuste. Dieu est compatissant, l'Éternel garde les saints, j'étais affaibli et il m'a sauvé. Mon âme retourne en ton repos. Nous avons chanté quel repos céleste. Alors, quel est notre repos? Donc, nous sommes troublés. Quel est le remède? Mon âme retourne en ton repos. Et qu'est-ce que c'est ce repos? Mon repos. Mais mon repos, c'est Jésus. Mon repos, c'est pas une doctrine. Mon repos, c'est une personne. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigué, qui êtes chargé, travaillé, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos, le repos, le repos de la conscience. J'ai besoin de retourner au Seigneur pour trouver ce repos qu'il m'a acquis. Lui, c'est pour rien dans ce repos. C'est lui qui a payé, c'est lui qui a accompli le sacrifice. Mais ensuite, eh bien, ayant ce repos de la conscience qui nous est donné, apprenez mes instructions, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. J'ai souligné plusieurs fois qu'il y avait ces deux repos, le repos que Jésus donne et le repos que l'on trouve dans la marche quand on suit ses instructions, mais si nous allons contre ses instructions, c'est forcément, nous sommes troublés, nous sommes dans l'inquiétude. C'est pourquoi ce psaume est formidable, parce qu'il nous dit « Mon âme, retourne en ton repos ». Parce que l'âme, les enfants l'ont bien compris, est différente du corps, elle est cachée dans le corps. Et alors, cet homme disait, ayant bien travaillé, ayant vu ses affaires prospérer, il veut démolir ses greniers qu'il trouve trop petits, et puis il veut amasser ses nouvelles récoltes. Hein. Au lieu de partager, au lieu de donner peut-être aux pauvres, il ne pense qu'à lui, qu'à ses vieux jours, et puis il dit, « Mon âme, tu as travaillé pendant beaucoup d'années, repose-toi. » Mange, bois, c'est bonne chair. Et le Seigneur lui dit, insensé, fou, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tout ton travail, tout ce que tu as fait, toutes tes fatigues, tout cela, au lieu de pouvoir te reposer, parce que c'est pas le repos de Dieu qu'il veut, c'est son repos à lui, égoïste, dans l'abondance, eh bien, tu n'auras pas même ce repos, et tes biens qui seront-ils? Voilà ce qui est réservé à celui qui est peut-être riche dans ce monde, mais qui n'est pas riche quant à Dieu. Alors, vous l'avez compris, mon âme, retourne en ton repos. Il y a une double exhortation. Reviens à Jésus qui t'a donné le repos, ton salut, et puis dans la vie pratique, apprends ses instructions et obéis à ses instructions. Tu trouveras ton repos. C'est le monde de repos. Vous n'avez pas le droit de ne pas avoir ce repos-là. Comme chrétien, si vous portez le nom de Jésus, vous devez avoir ce repos intérieur et ce repos dans la marche. Et puis verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de chute. Vous voyez que c'est tout ce qui est en nous qui bénit son saint nom, nos yeux. Parce que quand nous nous écartons du Seigneur, eh bien, nous connaissons les larmes et nous le savons bien, que de larmes, que de larmes. Eh bien, le Seigneur ne se plaît pas à nous faire pleurer. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur, lui, quand il a vu Marie et Marthe pleurer, il a pleuré, mais il ne se plaît pas à faire pleurer. Il est compatissant. Et ce qu'il désire, c'est garder nos yeux de larmes, que nous n'ayons pas des larmes amères, qu'un jour, lui-même effacera les larmes de dessus tout visage, en nous donnant sa consolation. Mes pieds de chute, on dit, mais moi c'est pas possible, je vais tomber. Alors, que faites-vous du Seigneur? Est-ce qu'il n'est pas capable de délivrer vos pieds de chute? Mais si vous courez vers la tentation, après avoir peut-être récité le Notre Père, ne nous induis pas dans la tentation, puis vous y courez, alors c'est évident que vos pieds ne seront pas délivrés de chute. Mais si vous obéissez au Seigneur, il vous gardera même dans la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, c'est-à-dire mesurée. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tenté, éprouvé au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Je marcherai devant l'Éternel. Vous voyez, on pourrait avoir tout un camp sur ce psaume, méditer sur chacune de ces paroles. Comment être à sec quand on est en présence d'une telle parole qui devient la nourriture de notre âme? Mais si ces textes sont seulement dans la Bible, s'ils ne sont pas dans votre cœur, si la parole de Dieu n'habite pas en vous avec abondance, eh bien, vous êtes toujours desséché, vous n'êtes pas content des sermons de vos pasteurs, de vos prêtres, que sais-je encore, et puis vous voulez changer d'église pour avoir un meilleur prédicateur. Ce n'est pas l'éloquence, ce ne sont pas ces choses artificielles extérieures qui sont essentielles. Ce qui est essentiel, c'est ce que vous entendez de la parole. Et c'est ce que vous voyez de la parole dans une vie. Je sais très bien que c'est quand j'ai les yeux sur Jésus que quelque chose de Jésus peut se manifester en moi. Mais je sais aussi que quand vous voyez quelque chose qui ne va pas en moi, c'est que moi je n'ai pas les yeux sur Jésus. Eh bien, gardez cela toujours. Hein. Ne mettez aucune confiance, aucune gloire dans l'homme. Regardez au Seigneur. On a vu hier soir les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il voudrait rencontrer votre regard pour vous donner cette force. C'est lui qui vous donnera cette force. Et vous ne saurez pas que votre visage rayonne, mais le monde s'apercevra que vous avez quelqu'un en vous. Et c'est lui qui vous questionnera, vous demandant la raison de l'espérance qui est en vous. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé, oui. Quand on a cru, on a quelque chose à dire. J'étais très malheureux. Je disais dans ma précipitation, tout homme est menteur. On arrive dans ces moments d'isolement où on sent très bien qu'aucun homme ne peut nous aider. Et que même si on vient nous donner de la sympathie, quand on est dans une certaine épreuve qu'eux ne connaissent pas, eh bien on se dit, oui, c'est des paroles, hein, des paroles. Tout homme est menteur. On fait l'expérience de Job. Et puis on se sent jugé. Pourquoi cela t'arrive à toi? Alors que ce n'est pas arrivé à d'autres. Puis on est malheureux, malheureux, malheureux. Et puis tout à coup alors, quand la délivrance est venue, comment rendrai-je à l'Éternel tous les bienfaits envers moi, tous ces bienfaits? Eh bien voilà, nous arrivons à la scène. J'élèverai la coupe des délivrances. Le Seigneur a bu la coupe des souffrances. La coupe du courroux de la colère de Dieu, cette coupe à Gethsémané dont il disait « si je pouvais, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi », c'était la coupe de la colère de Dieu. Car Dieu ne passe pas sur le péché. Le péché devait être expié et Jésus a accepté de boire la coupe pour que nous, nous n'en ayons aucune parcelle, aucun goût, parce qu'il voulait nous donner la coupe des délivrances, cette coupe dont il est parlé ici. J'élèverai la coupe des délivrances, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Certainement, je m'en souviens moi-même, quand on pensait à l'âge de 18 ans que je n'allais pas passer une certaine nuit, eh bien, je ne désirais pas vivre, je désirais m'en aller vers le Seigneur. Mais j'ai compris une chose, si tu me rétablis, Seigneur, ce n'est pas pour moi-même, ma vie, elle est à toi, ma vie, elle est pour toi. Alors, quand cela vient, il y a d'autres propositions, il y a d'autres voies qui nous sont montrées. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé? Et qu'est-ce que nous avons dit au Seigneur dans notre détresse? Alors, il est question d'accomplir nos vœux envers l'Éternel en présence de tout le peuple, non pas d'une façon cachée, mais nous savons prendre position, et puis nos frères peuvent reconnaître aussi que c'est dans la pensée du Seigneur. Et voyez-vous ce verset 15 qui nous ramène alors en plein dans le Seigneur, et que c'est quand même du Seigneur qu'il est question dans ce psaume 15. Elle a vu pris aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles ou la mort de ceux qu'il aime. Voyez-vous, vous n'allez pas mourir n'importe comment, c'est pas vrai. Dieu ne se plaît pas à ce que vous mouriez simplement. Si on devait mourir, il nous prendrait auprès de lui. Mais elle a du prix. C'est pas quelque chose de facile parce que Dieu ne voulait pas la mort. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il ne voulait pas la mort de ses créatures. De sorte que la mort, même si nous devons la connaître, il vous faut être persuadé qu'elle a du prix. Vous n'allez pas mourir n'importe comment. Ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas. Pierre savait d'avance de quelle mort il glorifierait le Seigneur. Et notre mort aussi doit être à la gloire du Seigneur comme notre vie. Notre mort doit parler au monde. Eh bien, que le Seigneur nous fasse méditer cela et le croire. Elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses fidèles. Que vous viviez ou que vous mouriez, vous êtes au Seigneur. Et si vous avez eu du prix pour lui quand vous étiez vivant, eh bien, votre mort aussi aura du prix pour lui, et il se glorifiera par votre mort. Je te supplie, Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante. De quelle servante, mes bien-aimés? Vous l'avez compris? Qui a été la servante du Seigneur? C'était Marie, la mère bénie de notre Seigneur, qui s'est laissée faire. Le fils de ta servante. Il y a eu une femme qui un jour a dit son oui au Seigneur. Et le corps humain de Jésus a été formé dans la servante du Seigneur, qui pour moi est un exemple de ce que notre humanité doit être. Qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Quel risque est-ce que je cours? Elle est fiancée à Joseph. Que va-t-on dire d'elle, etc. Personne ne va croire qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Et alors que l'ange est là dans la tente, l'ange n'est pas un violeur d'âmes. L'ange n'est pas comme les prédicateurs qui veulent toujours convertir les âmes sur le moment même. L'ange est là. Marie peut dire non. Comment ces choses peuvent-elles se faire? C'est là qu'est toute la foi. Eh bien, mes amis, elle se décide et elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Voilà ce que c'est servir le Seigneur. C'est pas faire et faire encore des choses pour lui, pour se glorifier du nombre de traités que l'on a donné, le nombre de visites que l'on a fait aujourd'hui. Parce que vous savez, c'est terrible à quoi on en arrive, à une espèce de salut par les œuvres de nouveau. On fait, on fait, on fait, puis c'est échec sur échec, puis après on est découragé, puis on laisse tout. Laissez-vous faire par le Seigneur. Acceptez que sa volonté s'accomplisse dans votre vie et que vous n'ayez pas besoin de grandes tribulations pour qu'il en soit ainsi. Ton serviteur, le fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Oh, il ne les a pas détachés sur la croix, hein, après la croix. Mais il faut la croix, et ça je l'ai compris pour moi. On veut un trône sans la croix aujourd'hui chez les chrétiens. Mais si vous acceptez la croix, il détachera vos liens. Si vous acceptez d'entrer dans la fournaise ardente, le feu ne vous brûlera pas, mais vous sortirez libérés. On a jeté les jeunes Hébreux pieds et mains liés dans la fournaise, et ils en sont sortis libérés. Et ils n'avaient pas l'odeur du feu sur leurs vêtements, et pourtant leurs liens étaient brûlés. Vous le savez, tu as délié mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance, j'invoquerai le nom du Seigneur, j'accomplirai mes voeux à l'Éternel en présence de tout mon peuple. Oui, il y a la solitude dont j'ai parlé pendant la semaine dernière pour apprendre les leçons du Seigneur, mais il y a aussi la confession publique dans les parvis de la maison de l'Éternel. Et c'est merveilleux, l'unité de la parole. Nous étions arrivés jeudi matin, justement, jusqu'au parvis de la maison de l'Éternel. Et je demandais aux âmes, est-ce que vous êtes des chrétiens des parvis seulement? Vous avez quitté le monde et vous dites, eh bien maintenant, je suis au Seigneur, je me suis séparé du monde. Le monde est derrière moi, mais je me tiens sur le seuil de la maison, sur les parvis. Mais dans le tabernacle, quand on était sur le parvis, simplement, on était encore bien loin du centre. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent d'être des chrétiens des parvis. Ils ont quitté le monde, oui, ils ne sont plus du monde, soi-disant, quoiqu'ils aient amené le monde chez eux d'une autre manière. Alors, ils sont sur le seuil de la maison. puis peut-être, alors s'ils avancent, ils sont les rachetés de l'autel, parce qu'après le seuil, après les parvis, il y avait l'autel. Chrétiens de l'autel, ils croient au sacrifice de Jésus-Christ, ils ne mettent pas cela en doute. Puis ensuite, il y a la cuve des reins, ils savent que le sang de Christ nous purifie de tout péché, que nous avons besoin dans la marche d'être purifiés, ce lavage des pieds dont j'ai parlé. Alors vous êtes chrétiens de la cuve des reins. Puis ensuite, il y a la maison. Oh, mes bien-aimés, que nous puissions entrer dans sa maison et être les chrétiens de la maison, dans sa maison, où est la force et la joie, sont dans le lieu où il habite. Eh bien, devenons des croyants qui habitent sa maison tous les jours de leur vie pour voir la beauté du Seigneur et s'enquérir de lui diligemment dans son temps. Eh bien, mes bien-aimés, nous allons maintenant avoir ce moment d'adoration, de prière. Il est à vous, pas à la chair, mais il est à vous selon l'Esprit. Laissez-vous immerger par le Saint-Esprit et que les quelques paroles que vous pourrez dire soient l'expression de votre culte en esprit et en vérité, pour la gloire du Seigneur, pour ce Père qui doit être tellement heureux, lui qui a dit « C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir », d'entendre quelques voix lui dire « Nous aussi, Père des cieux, Père adorable, nous avons trouvé en ton Fils notre bien-aimé. »